J'ai suivi avec une certaine attention le départ de la mission Mars 2020 qui a été lancée jeudi. À bord de la fusée, ben en fait, en haut de la fusée, il y a une capsule, puis là-dedans, il y a comme une petite Jeep, pas lunaire, parce qu'ils ne s'en vont pas sur la Lune, ils s'en vont sur une Jeep martienne, je pense que c'est le même qu'il faut l'appeler. Perseverance, c'est le nom du véhicule. Et ça m'a donné l'idée d'en parler avec un peu plus de détails, avec un spécialiste, puis c'est le genre de personne avec qui j'irai souper, puis j'aurai encore des questions en fin du souper. C'est sûr, moi,
donc, va falloir que tu te retiennes.
Je suis vraiment pas un spécialiste, mais je suis vraiment un gars fasciné par la conquête spatiale. Et on a le plaisir de parler ce matin avec Martin Bergeron, qui est gestionnaire de mission d'exploration planétaire et d'astronomie à l'Agence spatiale canadienne. Bonjour, M. Bergeron.
Bonjour, M. Vézina, et j'accepte d'emblée votre invitation à souper.
Ah, ben parfait. Je fais des bons tartares. Si vous venez à Québec, sentez-vous bien à l'aise.
Pas difficile, puis je respecte le 2 mètres.
Ah, parfait. Cette semaine, je parlais de ça avec ma mère, du lancement de la fusée vers la planète Mars, puis ma mère m'a posé une question, puis j'ai fait, me semble que c'est la question de base qu'on doit poser, c'est pourquoi?
C'est une très bonne question. Oui, c'est sûr que dans notre milieu scientifique, c'est certain que tous les enjeux scientifiques sont vraiment de première considération. Ici, on parle ici vraiment d'essayer de rechercher la vie. Donc, dans les dernières années, c'était vraiment la quête vers l'eau là, qui a mené toutes les missions précédentes. Et là, maintenant que c'est confirmé tout ça, puis qu'il y a de l'eau un peu partout dans le système solaire, là, sur la Lune, sur Mars, en très grande quantité, ben maintenant la question, c'est est-ce qu'il y a de la vie? On parle pas d'humains qui se promènent sur deux pattes, mais bien de microbes anciens qui auraient pu exister à une certaine époque de la formation de Mars, lorsqu'elle était beaucoup plus humide. Fait que ça, c'est au niveau scientifique. Il y a aussi, bien sûr, une question d'inspiration là-dedans. On parle, c'est un peu l'équivalent des voyages de colons vers l'Amérique. Ça, c'est la nouvelle frontière. Alors, la Lune, bon, c'est bien fait. Et là, maintenant, vraiment, l'attention, c'est vers Mars qu'on se tourne, justement, parce que la Lune est plutôt stérile, mais Mars pourrait avoir déjà obtenu de la vie.
OK.
Puis le dernier élément, ben, c'est la science, c'est la technologie, pardon. Alors, toutes les avancées technologiques là, qui se font, parce que c'est vraiment des milieux extrêmes.
Oui. Le rôle de l'Agence spatiale canadienne dans cette mission-là, c'est quoi exactement?
Bien, pour une fois, c'est très modeste. Typiquement, par exemple, sur Curiosity, qui était la mission précédente en 2012, là, on a vraiment un instrument qui opère encore de nos jours. Dans le cas de Mars 2020 et du rover de Perseverance, là, qui est environ d'une tonne, il n'y a pas d'instrument canadien à bord. Par contre, on a des scientifiques qui appuient la mission, notamment là, dans un volet qui est tout l'échantillonnage de la sélection des carottes là, géologiques qu'on va extraire de la surface. Et donc, on supporte nous, un scientifique qui joue un rôle de premier plan à ce niveau.
D'ailleurs, c'est une Québécoise de l'agence qui va piloter, c'est le même qu'on dit ça, le véhicule Perseverance quand il sera arrivé sur Mars, c'est ça?
Elle est au centre de contrôle, c'est ça, je crois bien, à JPL. Et effectivement, là, j'ai appris comme vous, je ne la connais pas, mais son rôle clé là, qu'elle va jouer au sein de la mission auprès de la NASA.
Ça prend combien de temps préparer une mission comme celle-là? Depuis combien de temps on travaille là-dessus?
Oh, c'est plus d'une décennie, alors... Ça s'inscrit dans toute une logique de définir les objectifs. On apprend des nouvelles choses au fur et à mesure. Donc, je vous ai parlé de l'eau. Donc là, maintenant, ben c'est l'étape qui est à suivre. Puis ensuite, il faut tout développer la technologie. C'est typiquement des missions qui prennent 7 ans et plus à développer.
OK. Là, on s'en va spécifiquement dans un cratère sur Mars où on soupçonne qu'il y a eu de l'eau, que ça a été un lac ou une mer. Donc, on essaie de retrouver quoi? Des bactéries qui auraient été créées là en raison de la présence de l'eau, c'est quoi?
Alors, c'est un peu comme sur Terre. La situation, évidemment, c'était il y a plus de 3 milliards d'années, donc ça fait un certain temps. Comme vous le dites, là, c'est une dépression environ 250 mètres de profondeur et un assez grand lac dans lequel se déversait jadis un fleuve.
Okay.
Et donc, comme sur Terre, le fleuve amène des boues, des sédiments, s'accumule au fond de l'eau, puis ils finissent par former des roches qu'on dit sédimentaires. Et ces roches peuvent contenir effectivement des traces de vie ancienne ou des indices de traces de vie ancienne. Le laboratoire lui-même va donc faire des extractions d'échantillons. On parle d'aller en chercher une entre 20 et 40, là, selon les sites qui sont sélectionnés. Puis, ces échantillons seront prêts là, pour les ramener éventuellement sur Terre.
OK. Mais si on trouve des traces de vie ancienne, ça donne quoi s'il n'y a plus de vie?
C'est une bonne question, mais Là, la question, c'est vraiment comment est-ce que la vie, elle est très commune. Alors là, présentement, on sait bien qu'elle existe sur Terre. On la retrouve dans toutes sortes de milieux, le fond des océans, sous des glaces arctiques stockées depuis des milliards d'années. Et là, la question, c'est ce qu'il y en a ailleurs. Sur Mars, c'est la planète, l'emplacement le plus proche où on pense que c'est possible. On étudie avec les télescopes des mondes potentiellement habitables ou habités à des distances quasi infinies. Mais là, Mars, c'est à portée de main. Alors, est-ce que le système solaire contient déjà de la vie? Ça serait une réponse extraordinaire qui nous dirait c'est plus prévalent qu'on pense. Les conditions sont faciles et ça se développe facilement.
Mais une fois qu'on a réussi à extraire la fameuse carotte ou un morceau de terre lointain, on fait quoi avec? Parce que est-ce que c'est le robot là-bas qui l'analyse? Est-ce qu'il va falloir aller le chercher puis le ramener pour être en mesure de faire des analyses sur Terre? C'est comment qu'on fait pour avoir les informations par la suite?
Le robot Perseverance a une dizaine d'instruments à bord. Ça va de quelque chose d'assez banal comme mettons un micro pour enregistrer les sons à la surface de Mars. Alors évidemment, on ne comprend pas les analyses, mais ça va quand même être intéressant d'écouter ce qui se passe sur la surface. Puis d'autres instruments beaucoup plus complexes qui peuvent analyser. Mais là où vraiment qui est l'originalité de cette mission-là, c'est que c'est une première étape sur trois. Il y a donc d'autres sondes qui, par la suite, au début des années 2030, vont se rendre sur Mars, vont redescendre à la surface, vont envoyer un autre petit robot, un deuxième, qui, lui, va aller chercher les échantillons, là où ils ont été stockés. Ensuite, ils vont redécoller de la surface, retourner en orbite, et là, rencontrer une troisième mission, qui viendrait aussi de Terre, qui sera en orbite, qui va ramasser ces échantillons et les ramener sur Terre. Et c'est là que nous, on va intervenir au Canada. Il faut être Perseverance, le nom est bien choisi.
C'est comme une course à relais, mais très long terme.
C'est ça. Puis, une fois qu'on les reçoit, on va recevoir au Canada ces échantillons-là. Puis les scientifiques canadiens vont avoir accès à cette collection d'échantillons. Et là, évidemment, on a toute la panoplie des instruments de très haute technologie qu'on connaît là, pour analyser ces échantillons.
Bon, alors, on cherche des traces de vie ancienne. C'est quoi le niveau de confiance d'en trouver? Puis, qu'il arrive quoi si vous n'en trouvez pas?
En science, qu'une réponse soit positive ou négative, c'est presque tout aussi intéressant. C'est sûr que ça pourrait être spectaculaire de trouver de la vie, mais de confirmer qu'il n'y en a pas déjà, ça serait déjà quelque chose. Mais effectivement, s'ils ont choisi le site, c'est parce que c'est un milieu humide similaire à ce qu'on a vu sur Terre. Sur Terre, on sait qu'il y a de la vie qui s'est développée dans ces conditions-là. Alors, ça apportera toute une série d'informations spécifiques dans les conditions précises que Mars connaissait à cette époque-là. Alors, moins de magnétisme, peut-être pas d'éclair, moins de volcanisme, ou autant tout autant de paramètres qui vont nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui permet de développer la vie puis qu'est-ce qui le rend possible.
À très long terme, l'objectif, c'est quoi? C'est d'envoyer des humains sur Mars? Est-ce que c'est vraiment possible? Parce que moi, je vois des images de Mars, puis il me semble que je vois pas de place pour aller jouer au golf le dimanche après-midi.
Non, ce ne serait pas des greens, ça va être des reds. Sûr quand on joue. Ouais, puis la gravité est un peu moindre, vous devriez améliorer votre pointage.
À condition de frapper droite.
Ouais, c'est ça. Mais l'idée, ça c'est vraiment, on n'est pas dans la science-fiction parce qu'il y a des plans, puis je pense qu'on va s'y rendre de notre vivant certainement, mais pour l'instant, on n'est pas là. C'est les sondes robotisées, c'est ce qui est plus efficace, c'est ce qui est moins coûteux. C'est tout un défi d'envoyer quelqu'un pendant 7 mois avec un environnement, avec des radiations, dans les conditions de l'espace. Puis ensuite, une fois rendu là-bas, il faut se promener, se développer. Donc, il faut tout amener, ce matériel-là. Un humain, c'est pas compact. Ça nous prend un habitat, la nourriture, etc. Puis ensuite, il faut revenir. Donc là, c'est des missions d'au moins 2 ans, 3 ans, confinées. Bon, c'est sûr qu'avec le COVID, on en apprend un petit bout sous le confinement, mais c'est quand même des conditions extrêmes. Et donc, on verra pas ça tout de suite, mais imaginez l'impact psychologique. Puis, un humain est beaucoup plus capable de s'adapter à la situation, d'avoir sa propre expertise. Puis, un géologue sur Mars, c'est mieux qu'un robot.
À quel point ça amène des découvertes, je vais appeler ça des découvertes collatérales, des choses que vous êtes obligé ou que la NASA est obligée d'inventer pour rendre possible ce genre de mission-là? Comme je pense que le Velcro, entre autres, a été inventé à cause des missions spatiales.
Oui, le Velcro, les lits d'absorption mousse, par exemple. Il y a des volets comme, par exemple, la télémédecine qui, par exemple, a été développée notamment avec la Station spatiale internationale, des choses comme les imprimantes 3D, par exemple, aussi ont bénéficié des programmes spatiaux. Le lien n'est pas toujours si facile à faire, mais chaque mission pousse les capacités techniques et technologiques. Puis c'est ces besoins très particuliers et extrêmement exigeants qui mènent à des nouveaux matériaux, des nouvelles façons de faire qui souvent sont applicables. Les compagnies, évidemment, une fois qu'ils ont développé cette mission très spécifique, la commercialisent par la suite.
OK. Je lisais ou entendais cette semaine que les Chinois sont aussi dans la course pour envoyer des sondes sur Mars ou des engins spatiaux sur Mars, à tout le moins, là, prenons le terme général. On vise le printemps prochain, le printemps 2021. Comment ils sont perçus, les Chinois, là-dedans, dans le monde de la conquête spatiale? Est-ce que c'est des amis ou des ennemis?
Ben, écoutez, c'est une collaboration, c'est une course amicale tout d'abord. Alors, on n'est pas dans le contexte ami-ennemi ici. Puis ça mène un certain stimulus. Alors, les Chinois ont lancé leur sonde le 23 juillet dernier. Mm-hmm. Ils vont arriver légèrement un petit peu plus tard que Perseverance. Ils vont arriver en mai de l'an prochain. Mais ils ont des objectifs très similaires et leur propre technologie d'astromobile, de petits robots qui va se déployer. Okay. Les objectifs, là encore, sont similaires. Mais ils ne sont pas non plus les seuls. On est dans une séquence là très fertile. La mission Al-Amal des Émirats Arabes Unis, là, qui est la sonde Espoir, elle a lancé juste quelques jours avant. Ils ont été les premiers dans une séquence. Okay. Eux, par contre, vont juste observer l'atmosphère. Ils n'ont pas de robots, ce qui est beaucoup plus complexe.
OK, ça fait qu'il y a du trafic, là, ça avoue, entre la Terre et la planète Mars, là.
Il y a ExoMars aussi qui s'en vient dans 2 ans. Là, la prochaine opportunité où la Terre et Mars sont en conjonction ou se rapprochent l'une de l'autre. Okay. Prochain lancement dans 2 ans aussi.
Pour la mission Mars 2020 qui a été lancée jeudi, c'est quoi la prochaine étape importante? Est-ce qu'il faut attendre au printemps prochain?
Ah oui, c'est l'atterrissage. Alors, avec tous ces défis techniques, c'est spectaculaire. Hein? Alors, et bouclier thermique pour faire une entrée, il faut être assez précis pour pas rebondir ou pas brûler. Ensuite, on descend, il faut se ralentir avec un parachute notamment. Ensuite, les rétrofusées, puis finalement, lorsqu'on est à proximité de la surface, on déploie une espèce de câble qui permet de descendre le Perseverance, le rover lui-même à la surface. Okay. Ça sera le moment de suspense là, à surveiller pour ceux qui sont intéressés.
Okay. Avant de vous laisser, il faut que je vous parle de SpaceX puis la capsule Dragon qui doit revenir demain au large de la Floride. Mais il y a un ouragan en Floride, ça a l'air qu'il va frapper les côtes aujourd'hui. Est-ce que vous savez si le retour de la capsule Dragon de la Station spatiale internationale va être retardé ou si ça va se passer comme prévu?
C'est une bonne question. Malheureusement, je ne suis pas un spécialiste. Ce qu'on sait, c'est que par le passé, aux États-Unis, ils ont plus d'un site d'atterrissage. Alors, je présume que ça doit être le genre de considération qu'ils peuvent déployer.
OK. Parce que je pense que c'est la première fois qu'ils reviennent dans l'eau avec des parachutes depuis Apollo, je pense.
Oui, c'est bien possible. Évidemment, la capacité d'atterrisseur, là, c'est qu'ils peuvent se poser de façon très précise à la verticale, alors que c'est d'autant plus un défi de stabilité, là, puis donc de sens de vague et de vent.
OK. Ouais. OK. Ben, M. Bergeron, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Très intéressant.
Ah, ça fait plaisir.
Au revoir.
On se voit n'importe quand.
Puis on se contacte pour le souper.
Oui.
Bonne journée. Merci beaucoup.
Bonne journée.
Martin Bergeron est gestionnaire de missions d'exploration planétaire et d'astronomie à l'Agence spatiale canadienne. C'est un monde tellement fascinant. Ouais,
comme dirait Charles Tissère, hein, fascinant.
Fascinant.
Ah oui, non, sérieux, c'est...
Si vous avez la chance, si vous êtes fasciné comme moi là-dedans, j'ai eu le plaisir de faire l'acquisition il y a déjà plusieurs années d'un coffret qui s'appelle De la Terre à la Lune. C'est produit par Tom Hanks.
Okay.
Je pense qu'il joue là-dedans aussi. C'est tout le programme de la conquête spatiale.
Ah, ouais.
À partir des premiers programmes, Gemini, Mercury, même avant ça, quand on a brisé le mur du son avec les premiers vols suborbitaux,
oui.
Quand on a expérimenté pour la première fois la pesanteur, etc., jusqu'à aller amener un homme sur la Lune. C'est vraiment bien fait. Ça s'écoute comme une série Netflix. Là. C'est un genre de séries, téléromans.
Ouais, séries documentaires.
Ouais, c'est okay. Ça, mais c'est joué par des comédiens.
Okay.
C'est pas un documentaire comme tel avec les vrais astronautes, mais c'est la vraie histoire, ça, c'est sûr. Tom Hanks est un maniaque de la conquête spatiale.
Ah, ouais.
C'est vraiment intéressant. Là. Il y a, je pense, une douzaine de DVD pour ceux qui ont encore des lecteurs DVD.
Je pensais qu'il était mort dans Apollo, lui, Tom Hanks.
Ouais.
Il jouait
Non, il est revenu dans Apollo 13. Ils sont venus. Il a failli mourir, mais il est revenu.
Ah, OK. Oui, il jouait avec Kevin Bacon et compagnie.
Oui. Kevin Bacon, d'ailleurs, quand il y a eu des problèmes dans l'espace, il a dit on est cuit. Mais finalement, ils ont été sauvés de justesse. si vous êtes des amateurs de conquête spatiale, vous pouvez nous envoyer vos impressions sur le 25226.
Je connais personne qui n'est pas fasciné par ce domaine-là.
Ben, il y a personne qui ça laisse indifférent.
C'est
ça.
C'est comme, tu sais, c'est comme un peu l'inconnu. Tout le monde est un peu passionné par ça quand on en jase avec un gars comme Martin Bergeron qui nous vulgarise ça très bien. Sérieux, moi, personnellement, je ne connais personne qui ne s'intéresse plus ou moins à ça.
Ouais.
Tout le temps, quelqu'un a une petite dose de fascination envers le monde spatial et tout ça. Ouais. C'est
moi, j'ai encore une fascination à voir voler un avion. Surtout les avions de ligne. Tu te dis, c'est pas supposé tenir en l'air, cette affaire-là.
C'est pesant, puis non. C'est
pas... Alors, imagine quand tu vois partir une fusée, puis ça s'en va sur la Lune, ça s'en va se promener autour de la Terre, ça s'en va sur Mars. Quand j'ai vu les premières, ça fait à peu près un peu plus qu'un an, je pense, un lancement de SpaceX, de
Elon Musk.
Musk. Qui faisait un test parce que les fusées d'appoint qui propulsent la fusée principale vers l'espace se détachent et reviennent et seront réutilisables. Puis ils atterrissent sur des barges dans l'océan. Ils sont précis, là, ils auraient pu atterrir sur un dixaine. Ça, moi, ça me fascine. Là.
Ouais.
C'est incroyable. Puis le niveau de dangerosité qui entoure ces missions-là, je pense que c'est Buzz Aldrin qui faisait partie de l'équipage d'Apollo 11, des premiers qui sont allés sur la Lune, à qui on demandait comment vous vous sentiez dans votre siège, dans la capsule avant le départ. Ben, aussi bien qu'on peut se sentir quand on se retrouve dans une bombe fabriquée par le plus bas soumissionnaire. Parce que le décollage d'une fusée, dans le fond, c'est une explosion contrôlée.
Ouais.
Puis, quand je parle de fascination, de voir une fusée haute de même, poussée par le bas, rester droite, puis s'en aller exactement là où on veut qu'elle aille, ça aussi, ça m'impressionne.
Ben oui.
C'est de contrôler parfaitement la poussée de chacune des tuyères, des gros cônes en dessous, là, de façon à ce que ça monte droite, puis vraiment qu'ils se sont enfargés une couple de fois. Là, il y a eu des tests qui ont mal tourné, puis qui ont causé des explosions de fusées, puis des décès aussi.
Ben oui.
Mais de voir que ça fonctionne finalement, moi, ça... Je suis complètement renversé encore aujourd'hui.
Pis si tu as la chance, Vez, d'aller visiter les lieux de la NASA, autant à Houston
qu'en Floride.
Ah, t'es allé?
Oui.
C'est l'enfer, ça a l'air. Là,
c'est impressionnant. Mais je suis allé, ça fait 30 quelques années. Là. Ça a sûrement changé un peu.
Tu te rends compte que sont pognés quand même, hein, un à côté de l'autre, là, dans la petite navette. Là.
Oui. Ben,
c'est pas si confortable que ça.
Vous avez suivi David Saint-Jacques l'an dernier. Ouais. Quand on le voyait dans la capsule Soyuz, c'est pas le grand luxe, là. C'est pas le grand confort. Là.
Ils
sont strappés vraiment pour prendre le moins de place possible. Puis même, tu sais, les genoux repliés quasiment sur la poitrine là, pour prendre le moins de place possible. Parce qu'ils ont du stock un peu à rapporter. Il faut qu'ils ramènent leurs achats à la boutique hors taxe, là, en haut.
Boutique hors taxe.
Ça... Mais c'est pas le grand luxe, effectivement. Mais c'est le genre de voyage que je ferais.
Ah oui?
Vraiment, aller passer une semaine en orbite autour de la Terre, c'est sûr que
j'ai... Si t'avais bien de l'argent, comme justement Guy la Liberté, tu te paierais un trip comme ça?
Peut-être que je me paierais d'autres choses avant, mais oui, je le ferais.
OK.
Ben, si je pouvais. Mais alors,
Puis là, ça y va avec l'entraînement avant ça, c'est compliqué, pareil.
Mais mettons qu'on pousse plus loin encore, parce qu'il y a été évoqué la possibilité d'aller sur Mars puis d'être les premiers colons de Mars et d'aller là 2-3 ans. Là, c'est comme 2-3 ans confinés avec du monde que tu connais pas.
Ils voulaient pas faire une genre d'émission de télé-réalité, il me semble, là-bas?
Ils l'ont fait en Arizona, je pense. Un genre d'immense dôme.
Ouais.
Puis il était une demi-douzaine là-dedans, je pense. Puis il devait rester, je sais pas combien de temps, là, mais ça, je pense que ça a mal tourné.
Mmh. Occupation double sur Mars, c'est intéressant.
Les paysages seraient peut-être moins spectaculaires.
Puis, ce serait pas le même QI, les participants, mettons.
Et bobo. Hein? Ça se passerait pas la même affaire dans la maison de l'amour.
Oui, je commande pas. J'ai jamais écouté une question double, c'est pour ça que je commande pas.
Non, tu manques rien, Vest.
Il y a un auditeur qui nous demande, redonnez-moi, s'il vous plaît, le nom de la série télé Mission Spatiale. Ça s'appelle De la Terre à la Lune, From Earth to Moon. C'est Tom Hanks qui l'a produit.
Ça, c'est
produit,
disponible
réalisé.
Sur YouTube, peut-être, Vest?
Probablement, oui. Oh oui. Il y a le Musée de l'espace à Washington, quand on peut y aller. Normand qui nous suggère d'aller visiter ça à Washington.
Sûrement dans la rangée où il y a toutes sortes de musées. Puis je pense que les musées sont gratuits. Je pense que l'entrée est gratuite pour les musées à Washington, si je ne me trompe pas.
C'est possible. Je ne suis jamais allé.
D'accord, ça vaut la peine. Non? Peut-être
pas
en cette période-ci, là, mais à un moment donné, ça peut être intéressant à visiter.
Une